Amen. Voilà, gloire au Seigneur. On est heureux de vous accueillir. Peut-être vous qui êtes de passage au milieu de nous, soyez les bienvenus. Voilà, je ne sais pas s'il y a des visiteurs d'une autre région ce matin. Tout le monde est de la région toulousaine. Ah, de Carpentras, voilà. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent? Ouais. Alors, pour les Toulousains et l'agglomération, on est habitués, mais s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur, d'accord? Pas d'autres nouvelles personnes? Ah, une sœur. Des États-Unis. Vous voulez bien vous lever, sœur? Voilà. Voilà. Welcome in French. In France. Voilà. Ouais, je dois perfectionner un petit peu mon accent. Hein. Voilà. Soyez la bienvenue, ma sœur. Vous comprenez bien le français? Ah, gloire à Dieu. Alors, on va lire dans Matthieu, chapitre 22, verset 36. Donc, on a parlé à plusieurs reprises depuis trois dimanches sur différents domaines de l'être humain qui sont parfois des accès pour l'ennemi pour nous manipuler. On a parlé de la langue, des oreilles et des yeux. Et je voulais voir avec vous maintenant, pour terminer cette série, sur la pensée. Les pensées qui sont parfois utilisées aussi par l'ennemi pour nous troubler. Matthieu 22, verset 36, on voit que le Seigneur désire qu'on l'adore de toute notre pensée. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Aimer le Seigneur de toute notre pensée. C'est donc important aux yeux de Dieu ce que l'on pense, et Dieu connaît tout, Dieu voit tout, il voit nos pensées. Alors c'est un domaine qui est très personnel, les pensées, puisque personne ne peut les connaître. Même des personnes qui sont proches de nous n'ont pas accès à nos pensées, mais Dieu, lui, il connaît toutes nos pensées et il nous demande, eh bien, moi je veux que vous m'adoriez aussi avec nos pensées. Parce qu'on peut très bien être dans un culte comme celui-ci, être présent de corps, mais dans nos pensées, on peut être complètement ailleurs, vous voyez, en train de penser à ce qu'on va faire après, à un problème, etc. Et on n'adore pas de toutes nos pensées. Nos pensées ne sont pas intégrées dans l'adoration, elles sont orientées ailleurs, et cela ne peut pas plaire au Seigneur. Donc les pensées, c'est un domaine important, c'est un domaine qui doit être soumis à Dieu, et on voit que les pensées sont utiles bien, dans bien des domaines de la vie de tous les jours, pour la réflexion, pour faire des projets. Et on pense tout le temps, mais en même temps ces pensées sont utiles, en même temps elles sont une source de difficultés, de tentations. Elles peuvent aussi nous éloigner du Seigneur et nous devons les combattre. C'est un philosophe qui a écrit ceci, qui s'appelle Épictète. Il a dit, il est bien plus important de chasser les pensées néfastes de notre esprit que d'enlever des tumeurs et des abcès de notre corps. Déjà, il se rendait compte, bien que non croyant, de l'impact néfaste des pensées sur l'individu qui vont le détruire. D'ailleurs, il y a des maladies qui sont d'origine psychosomatique et qui ont d'origine donc des rancœurs, des pensées mauvaises entretenues et qui vont avoir une action sur le corps. Il y a donc un combat à livrer contre les mauvaises pensées, et j'aimerais voir avec vous ce que la Bible enseigne donc sur ce sujet. Une première partie qui nous parle de nos pensées qui sont limitées par rapport à la pensée de Dieu, c'est Ésaïe 55, verset 8. Prophète Ésaïe, chapitre 55, verset 8 et 9. « Car mes pensées, dit l'Éternel, ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On sait que l'être humain a une faculté extraordinaire qui est de penser, de raisonner, de réfléchir. Contrairement aux animaux, par exemple, nous avons conscience de nous-mêmes. Nous avons conscience du monde et nous avons la possibilité de conceptualiser, de faire des projets, de nous projeter dans l'avenir. Vous voyez, les animaux, les êtres inférieurs, ils vivent dans le présent. Ils ne peuvent pas avoir la même réflexion, ils n'ont pas la même intelligence et ils sont limités. Donc déjà l'être humain est supérieur en pensée, il est supérieur dans sa réflexion au règne animal, mais en même temps il est à la fois faible dans son corps et grand par ses possibilités, mais en même temps il est limité. C'est Pascal qui disait l'homme est un roseau, il est plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. À la fois nous sommes faibles, nous sommes comme un roseau, c'est-à-dire un rien peut nous détruire, et à la fois nous avons quelque chose de supérieur à toute la création qui nous environne, c'est la faculté de penser, de réaliser que nous existons, de réaliser aussi que nous mourons, car la vie, nous en prenons conscience, notre vie ne dure qu'un temps, et nous on sait qu'on meurt. Un animal ne se rend pas compte de ces choses-là, mais l'être humain est supérieur. Alors bien que la pensée de l'homme est vraiment extraordinaire, elle est pourtant limitée. On a lu dans ce texte, quand on regarde Dieu, « Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. » Alors même nos pensées les plus nobles sont loin de Dieu. La grandeur de Dieu nous dépasse, parce que Dieu est infini. Il n'a ni naissance, ni mort, et nous sommes des êtres créés. Nous avons un début et une fin. Nous avons une naissance et une mort. Donc déjà, nous ne pouvons pas comprendre l'infini. L'infini, c'est en dehors de notre compréhension. Dieu est parfait. Il n'a jamais commis aucun péché. Il n'a pas de communion avec le péché. Et nous sommes pécheurs de nature. Nous sommes nés dans le péché. Le péché nous environne. Donc nous ne pouvons pas comprendre la perfection de Dieu avec notre intelligence, parce que déjà même notre intelligence est embrumée en quelque sorte par le péché. Alors, on ne peut avoir finalement qu'un petit aperçu de la grandeur de Dieu. Et le Seigneur nous le dit, il dit, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées par rapport à vos pensées. Si on avait la possibilité d'aller auprès d'un océan et qu'on prenne un verre, on prend un verre d'eau dans l'océan, on considère la masse d'eau de l'océan et puis la petite masse d'eau de ce verre. Ben, ce que nous connaissons de Dieu, finalement, ça correspond à un petit verre d'eau face à un grand océan que nous ne connaissons pas, qui ne peut pas rentrer dans notre esprit. Alors nous connaissons des choses, mais nos pensées sont limitées. Pourtant, et nous nous en rendons compte dans l'Ancien Testament, il est dit dans l'Ecclésiaste que Dieu nous a fait grâce puisqu'il a mis en nous la pensée de l'éternité. Et ça vient de Dieu quand même. Parce que nous-mêmes, on est incapable de comprendre l'éternité, ce qui se passe après la mort, etc. Mais Dieu a mis en nous cette pensée qu'après la mort, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ça, c'est vrai chez les croyants comme chez les non-croyants. Chez les non-croyants, il y a toujours cette impression qu'ils vont vivre quand même après la mort. De tout temps, de toutes les tribus, de tout peuple, il y a eu cette croyance d'une survie après la mort. Regardez par exemple les tombeaux des Égyptiens qui étaient remplis de victuailles parce que les pharaons, ils avaient l'impression qu'ils allaient vivre encore malgré qu'ils étaient qu'ils étaient embaumés, qu'ils étaient dans un cercueil. Il y avait cette croyance, et puis dans des tas de religions, parce que c'est Dieu qui l'a planté dans le cœur de l'homme. Dieu a voulu que l'homme ait la notion qu'il a une âme en lui et que cette âme ne meurt pas, mais qu'elle peut vivre éternellement. Alors voilà pourquoi l'homme aujourd'hui se pose des questions sur l'éternité. Il a une sorte d'intuition en lui et il se dit, après la mort, il doit y avoir quelque chose. Le problème que nous avons, voyez-vous, quand nous avons cette manière de penser, donc nous, dans nos raisonnements, c'est que nous limitons parfois Dieu. Il y a un verset qui dit dans Éphésiens chapitre 3, au verset 20, il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est Dieu qui peut le faire. À lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Notre pensée est si limitée, si vous voulez, que nous péchons en limitant Dieu par nos pensées. Parce qu'il peut faire toujours au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alors, ainsi, quand nous doutons, par exemple, on va douter que Dieu peut guérir telle ou telle personne, ou que Dieu peut changer telle ou telle situation, ou nous doutons que Dieu peut ressusciter un mort. Alors, ces doutes-là, ses incrédulités, ses pensées négatives, eh bien, nous limitons la puissance de Dieu. Vous savez que c'est arrivé dans le village de Nazareth, à ses habitants qui recevaient Jésus, mais dans leur cœur, ils ne croyaient pas que Jésus était capable de guérir les malades. Donc ils doutaient et leurs pensées étaient négatives. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc ceci nous montre quand même que c'est important. C'est important d'avoir des pensées orientées vers Jésus, de croire que Jésus peut tout faire, par exemple, d'avoir nos pensées vers Christ et non pas des pensées incrédules en disant « mais il ne pourra pas guérir, il ne pourra pas changer, ça n'est pas possible, etc. » On est aussi influencé par le pays où on vit. Nous, on est né dans ce pays, on est influencé par la pensée, la mentalité française, la mentalité européenne, cartésienne. C'est directement issu du siècle des Lumières, on ne croit que ce que l'on voit. Et déjà, c'est Thomas qui disait, mais moi, tant que je n'aurai pas vu les marques dans tes mains, je ne croirai pas. Vous voyez, nous, on est directement issus de ce mouvement-là, qui est que l'on ne croit que ce que l'on voit. Et nos pensées sont orientées comme ça. On a besoin de voir. Ça, c'est une mauvaise, un mauvais héritage que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui ne se voient pas. Et on est perturbé dans nos pensées, parce que nous, on a besoin de voir pour croire. Nos pensées vont peut-être s'améliorer, même évoluer un petit peu. Avec le temps, elles seront toujours limitées. J'entendais, je crois que c'était dans un journal d'information, que des savants, des scientifiques se sont projetés dans l'avenir pour voir comment serait l'homme dans 50 000 ans. Et ils ont fait une représentation. Alors ils ont fait évoluer l'homme, et puis alors vous voyez le cerveau qui grossit, qui grossit, qui grossit. Et puis le corps, et puis alors ça s'allonge comme ça. Alors c'était pas très esthétique, hein, ça faisait une grosse tête là, parce qu'il paraît que le cerveau va continuer à grossir. Alors peut-être que nous on sera déjà au ciel, hein, on sera déjà enlevé. Mais les études des scientifiques, elles vont très loin. Et ils nous montrent que le cerveau, la pensée, elle travaille beaucoup. Et que de plus en plus dans l'avenir, nous ne serons plus là pour le voir, frères et sœurs, mais en tout cas, le cerveau va grandir. Malgré tous ces progrès de l'être humain, la pensée sera quand même toujours limitée. Imaginez qu'on ait un cerveau deux fois plus gros, ben notre pensée serait toujours, malgré tout, limitée par rapport à la pensée de Dieu. Et c'est ainsi, il faut accepter ce fait. C'est que nous ne pensons pas comme Dieu à l'origine. Dans une deuxième partie, on voit que notre pensée a été souillée par le péché. On voit qu'elle est limitée à la base, mais l'autre problème, c'est que le péché s'est incrusté dans notre esprit. Colossiens chapitre 1, verset 21 nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Donc ce potentiel extraordinaire que nous avons, qui est la réflexion, de calculer, de faire des projets, et ce savoir qui ne cesse de s'accroître, qui continue d'évoluer, ben cette faculté, si noble soit-elle, elle est entachée par le péché et nous ne pensons pas comme Dieu le veut. Au contraire, la Bible nous dit que nous, en quelque sorte, nous pensons à l'envers de Dieu, puisqu'il a dit « Autrefois, vous étiez ennemis et étrangers par vos pensées. » Nos pensées sont étrangères à Dieu. Pire que cela, nous sommes devenus ennemis de Dieu par nos pensées. Ce verset nous montre qu'un pécheur qui est séparé de Dieu, ben, il est orienté à penser vers le mal et à penser des choses mauvaises, négatives. En fait, par notre intelligence, notre raison ou notre sagesse, nous ne pouvons pas rencontrer Dieu, nous ne pouvons pas nous convertir. Il nous faut ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. C'est Christ qui est mort à la croix pour nous sauver. Et on voit que même des cœurs d'enfants acceptent le salut et ils sont sauvés, alors que des savants, des gens intelligents qui réfléchissent beaucoup, ben, ils ne vont pas forcément ouvrir leur cœur et ne vont pas être sauvés. L'intelligence n'est pas une condition fondamentale pour être sauvé. Ce qui compte, c'est d'accepter l'œuvre de la croix et de croire dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Mais c'est une grâce, frères et sœurs, ce matin. Nous étions étrangers par nos pensées, mais Dieu a fait de nous des citoyens des cieux et nous appartenons à la famille de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes frères et sœurs. Nous étions ennemis de Dieu, dit ce texte, mais maintenant nous sommes amis de Dieu. Nous avons été transformés par, dans nos pensées. Alors, je vais vous montrer quelques versets pour dire que le péché est enraciné dans nos pensées. Psaume 2 et verset 1. Nos pensées sont vaines. Ce psaume dit : pourquoi ce tumulte parmi les nations ? Ces vaines pensées parmi les peuples. Les vaines pensées dominent dans notre monde. Ces vaines pensées, ça signifie littéralement en hébreu vide, vanité, inutile, vain. Toutes ces pensées qui ne considèrent pas l'existence de Dieu, qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Et bien des gens passent des heures dans des raisonnements, dans des réflexions, sans aucune issue, parce qu'ils rejettent Dieu. Et parmi toutes les pensées même qui nous traversent l'esprit, un grand nombre n'ont aucun intérêt, sont inutiles, sont vaines, comme dit ce texte. Elles sont vaines, des vaines pensées. Alors, il va falloir faire une sorte de nettoyage de nos pensées. Il y en a trop. Elles sont généralement inutiles, orientées vers ce qui est mauvais. Donc, pour ne pas avoir la tête encombrée, bien, on doit demander au Seigneur de nous délivrer de toutes ces mauvaises, ces vaines pensées qui circulent dans notre esprit, et puis ainsi faire un peu de ménage dans notre tête. Alors, les pensées sont vaines. Un autre texte nous dit qu'elles sont mauvaises. Genèse chapitre 8, verset 21. Dieu dit : je ne maudirai pas la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Et puis c'est Jésus qui dit dans Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, etc. Ben, les mauvaises pensées, voilà aussi un problème contre lequel il nous faut lutter, frères et sœurs, sont ces pensées qui nous poussent au mal. Vous voyez, il est dit ici que toutes les mauvaises pensées, elles viennent du cœur de l'homme. Contrairement à ce qu'enseigne l'humanisme qui dit « l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt », la Bible nous dit que l'homme n'est mauvais, pécheur. Ce texte nous dit « les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès la jeunesse ». Vous pouvez lire toute la Bible, vous ne verrez pas qu'il y a quelque chose de bon en l'homme. L'homme est orienté vers le mal. Ses pensées sont mauvaises et au contraire, la Bible dit « vous avez besoin d'être délivré de ce mal qui est en vous, de ce péché qui est en vous et la seule solution » c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Donc c'est ça le message de l'évangile. Le message de l'évangile nous dit que l'homme c'est quand même le sommet de la création, oui, mais que par son péché, eh bien, il s'est séparé entièrement de Dieu. Et tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là du péché, eh bien nous sommes mal orientés. Les pensées sont vaines, elles sont mauvaises. Un autre texte nous dit qu'elles sont perverses. Proverbes chapitre 16, verset 13. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà commis le mal. Ce qui est pervers, c'est ce qui est enclin au mal, qui se plaît à l'encourager. Alors, regardez au Proverbe 16, verset 13, il est dit qu'il y a des gens qui ferment les yeux. Pourquoi ils ferment les yeux ? Parce que nous avons la faculté d'imaginer. Nous avons la possibilité de voir des choses dans notre esprit, de penser. Et ainsi, il y en a qui commettent toutes sortes de forfaits déjà en pensée. Ainsi, ils réfléchissent comment ils pourraient faire tel ou tel mal. Et c'est ce que ce texte veut dire. Celui qui ferme les yeux, il est là, entraîné par son imagination. Il est en train de projeter quelque chose mauvaise. Par exemple, quelqu'un qui va entretenir un désir. Comme Jésus le dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Déjà en pensée, vous voyez, Jésus parle d'abord du regard, mais il dit après il va entretenir la convoitise. Et ça se fait dans l'imagination, dans les pensées. Et ça doit être soumis aussi au Seigneur. Alors la plupart des gens, avant de passer à l'acte du péché, déjà dans leur esprit, ils ont conçu le moyen d'y parvenir. Donc nous chrétiens, nous devons lutter contre toutes ces pensées perverses, orientées vers le mal, qui veulent s'infiltrer dans notre esprit. Un autre texte nous dit que les pensées sont folles. Proverbes chapitre 24, verset 9. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Le mot folie signifie aussi sottise, légèreté. Ça correspond à des réflexions insensées, des réflexions stupides que parfois il nous arrive d'avoir, et ça a une influence sur notre vie. Parce que autant quand on s'entretient de pensées stupides, insensées, on va avoir un comportement incohérent, excentrique, autant quelqu'un qui canalise ses pensées, qui a des pensées orientées vers Dieu, il va avoir un comportement spirituel. Donc, ce dont nous entretenons notre esprit va avoir aussi des conséquences sur notre vie. Nos pensées sont, Romains chapitre 1 verset 21 dit, elles nous égarent. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Voilà des hommes qui raisonnent, qui font des réflexions, mais qui n'ont aucune issue. Et la Bible nous dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils n'ont pas reconnu la main de Dieu dans la création. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant le Père. Et c'est vrai encore aujourd'hui, beaucoup s'égarent. Et alors c'est vrai qu'ils regardent la création. Hein, c'est ce texte de Romains 1 qui nous montre que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Ils regardent des non-croyants, ils regardent l'origine, comment est-ce que le monde est arrivé, et ils ne peuvent répondre à cette question, pourquoi est-ce que nous existons, si ce n'est par le hasard. Et les savants les plus rationalistes sont obligés d'invoquer le hasard comme source de vie, puisqu'ils disent que c'est par hasard que l'univers existe, c'est par hasard que la Terre se situe à bonne distance du Soleil, c'est par hasard que la vie a pu jaillir sur la Terre, etc. etc. Finalement, c'est un raisonnement très hasardeux qui vient de ces grands personnages haut placés qui réfléchissent sur la création. Or, la parole de Dieu ne nous laisse pas de doute. Comment est-ce qu'on peut croire qu'il y a une création si on ne croit pas qu'il y a un créateur ? De même, comment est-ce qu'on peut dire qu'il existe une horloge si derrière il n'y a pas un horloger qui l'a créée ? C'est ainsi que nous croyons que Dieu, c'est le grand créateur de l'univers, qu'il n'y a pas de hasard dans la création. Mais nos pensées cartésiennes nous égarent. Parce qu'on refuse Dieu, alors on cherche, ça doit être le hasard. Ça doit être... Mais le hasard devient Dieu, en quelque sorte, pour eux, parce que le hasard a réponse à tout. Puisque c'est par hasard, pour eux, que tout s'est fait. Alors finalement, nous enlevons le hasard, mais nous laissons Dieu sur son trône. Alors, elle nous égare, les pensées sont orgueilleuses. Jacques chapitre 4 verset 16. Mais maintenant, dit Jacques, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Qu'est-ce que c'est que des pensées orgueilleuses ? Ce sont toutes sortes de projets que nous faisons sans nous soucier de la volonté de Dieu. Dans le texte de Jacques, il est dit que ces gens, ils pensent pouvoir acheter, faire du commerce, gagner beaucoup d'argent, mais ils ne croient pas en Dieu, ils ne se soucient pas de Dieu. Et Jacques leur dit, mais votre vie, ce n'est qu'une vapeur, un souffle qui disparaît, et puis vous serez propulsé dans l'éternité, vous n'avez pas préparé votre rencontre avec Dieu. Alors nous devrions, comme dit Jacques, dire, ben, nous ferons ceci, nous ferons cela, si Dieu le veut. Car demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui nous vivons, demain est-ce que nous serons encore en vie ? Nous ne le savons même pas. Jésus le dit clairement lorsqu'il prend l'exemple d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté de récoltes. Et il s'est dit en lui-même, vous voyez dans ses pensées orgueilleuses, il s'est dit, je vais abattre mes greniers, je vais en construire des plus grands. Alors ce qui lui est reproché, ce n'est pas de faire des projets. Ce qui lui est reproché, ce n'est pas d'avoir eu une bonne récolte ou d'être riche. Ce qui lui est reproché, c'est de penser d'une manière orgueilleuse sans se soucier de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Tes pensées orgueilleuses, tu réfléchis sans Dieu, sans te soucier de ce que Dieu veut faire, eh ben, ça n'aboutira à rien parce que le Seigneur lui dit, et puis tout ce que tu as prévu, pour qui est-ce que ça sera ? Tu ne pourras pas en profiter. Donc nous devrions plutôt mettre Dieu en première place dans nos pensées et laisser les pensées orgueilleuses de côté. Ensuite, nos pensées sont charnelles. Colossiens chapitre 2, verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il y en a qui ont des pensées charnelles. Qu'est-ce que c'est les pensées charnelles? Ce sont des pensées humaines tout à fait opposées aux pensées spirituelles que Dieu veut que nous ayons. Le but de nos pensées charnelles, c'est par exemple une satisfaction immédiate de nos appétits, de nos désirs, sans se soucier de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens croient ainsi que, par exemple, en achetant telle chose, en allant dans telle, par exemple, en faisant un beau voyage, etc., qu'ils vont être très heureux et ils vont vivre d'une manière excessive, beaucoup de confort, beaucoup de luxe, mais on se rend compte que notre esprit aspire à des choses plus élevées que des choses matérielles. Ainsi, en nous, il y a une soif de Dieu, une soif spirituelle, et ça ne s'achète pas. On a beau avoir des biens matériels, de l'argent, mais si on n'a pas le cœur comblé par la présence de Dieu, ben nos pensées, ça va être toujours plus, des pensées charnelles, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, et on n'est jamais satisfait. Les pensées spirituelles, elles ne s'achètent pas, elles sont gratuites, et je dirais qu'elles se découvrent dans la parole de Dieu. C'est comme des trésors, et c'est ça qu'il nous faut rechercher, frères et sœurs. Ne vous laissez pas influencer par tout le bombardage médiatique qui nous pousse à telle ou telle consommation. Ça, c'est des pensées charnelles. Mais laissez-vous influencer par la parole de Dieu qui va injecter en vous des pensées spirituelles. Autre chose par rapport aux pensées, elles sont terrestres. Philippiens chapitre 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ne penser qu'aux choses de la terre, avoir des pensées terrestres, c'est à l'opposé des pensées célestes. Et nous, chrétiens, nous sommes maintenant citoyens des cieux, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons une demeure qui nous attend, nous sommes citoyens du ciel. Donc, nos pensées doivent être attirées vers ce qui est élevé, vers le ciel, vers les choses de Dieu. Les choses spirituelles sont éternelles, elles ont de la valeur. Les choses terrestres sont passagères, elles périront. Alors, frères et sœurs, nous regardons vers le ciel et nous pensons aux choses d'en haut, nous nous attachons aux choses d'en haut et nous recherchons ces choses-là. Mais on voit que les pensées humaines sont terrestres. Et enfin, les pensées peuvent se corrompre. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Christ. Alors, nous devons veiller nous-mêmes sur nos pensées, parce que ce texte s'adresse à des chrétiens. Tous les textes que je vous ai dit avant, ça s'adressait à des non-croyants. Mais ce texte-là, 2 Corinthiens 11, 3, c'est aux chrétiens de Corinthe. Et Paul leur dit, moi je crains que vos pensées ne se corrompent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de, par rapport à Jésus, de se détourner de la simplicité de l'évangile. Et en fait, on se rend compte que le tentateur veut avoir accès à nos pensées pour nous détourner de Jésus, pour nous détourner de l'Église, pour nous éloigner de la vérité. Et si on regarde comment le tentateur a agi dès le début, dès qu'il a parlé à Ève la première fois, eh bien, il a insufflé dans ses pensées des choses vaines. Par exemple, il a fait croire à Ève que si elle mangeait du fruit défendu par Dieu, ben, elle serait comme Dieu, elle aurait des choses extraordinaires. Et puis elle s'est mise à imaginer, à rêver des choses. Et on voit que l'ennemi cherche à avoir accès à nos pensées, à nous faire imaginer des choses. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a voulu insuffler le doute dans les pensées d'Ève. Donc nous devons veiller à garder nos pensées de la corruption, car comme nous le voyons dans l'église de Corinthe, Paul craignait que ses frères et sœurs, au niveau de la pensée, ils se détournent de l'évangile. Dans une troisième partie, on va voir que comment on va prendre la victoire sur nos pensées. Notre pensée doit être captive. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. 2 Corinthiens 10, 4. Alors là, on a la méthode à employer pour s'occuper de nos pensées. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Voilà le verset qui nous montre comment nous allons prendre la victoire sur ces mauvaises pensées. Tout d'abord, nous ne devons pas croire que les mauvaises pensées vont partir toutes seules. Ça serait un petit peu comme un jardinier qui croit que les mauvaises herbes, elles vont s'évaporer, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Ce n'est pas possible, il va falloir intervenir. Donc, il y a un combat, et ce verset commence par parler d'armes, hein, de Corinthiens 10, car les armes, et pour insister sur ce fait que Paul exprime dans nos pensées, il va y avoir un combat avec des armes à livrer. Quand Paul dit qu'il y a un combat à livrer, il ne dit pas que quelqu'un va le faire à notre place, mais il dit que c'est à nous de prendre les armes et de livrer le combat. Autrement dit, Paul dit, le Seigneur vous fournit les armes, il y en a plusieurs. Le Seigneur vous donne la cible, ce sont les pensées qu'il va falloir traiter. Et maintenant, le Seigneur vous dit, c'est à vous de combattre. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire à notre place. Ce n'est pas votre voisin, votre voisine. Donc, je relis ce verset. Je me rends compte d'abord que nous avons des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, 4 nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si elles ne sont pas charnelles, c'est donc qu'elles sont spirituelles. Et c'est des armes spirituelles avec lesquelles nous allons obtenir la victoire. Parce que si on combat sur le plan humain, nos pensées, on ne va pas gagner. Mais si on prend les armes spirituelles, c'est des armes adaptées, et c'est comme ça qu'on va chasser les mauvaises pensées. Donc, il faut prendre les bonnes armes spirituelles. Je remarque dans ce verset que ces armes, elles sont puissantes. C'est écrit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, ce sont des armes efficaces qui vont avoir un impact. Une seule arme de Dieu va avoir plus de puissance que tout effort humain. Et puis, la dernière chose que nous dit ce verset, c'est qu'elles sont, ces armes sont efficaces. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un effet pour renverser des forteresses. Vous imaginez une forteresse, qu'est-ce que c'est ? C'est solide. Ça part pas comme ça. Une forteresse, c'est un lieu fortifié pour défendre une ville ou ce qui résiste à une action extérieure. Eh bien, dans notre esprit, il y a des forteresses invisibles. Ce sont nos pensées qui résistent à Dieu, des raisonnements contre la connaissance de Dieu. Et nous devons, en quelque sorte, les débusquer, les renverser, les chasser. Et ces raisonnements qui peuvent être utiles dans la vie de tous les jours, des raisonnements que nous utilisons, et on se rend compte qu'ils vont devenir handicapants dans le royaume de Dieu. Jésus a passé un grand temps de son ministère à travailler au niveau de la pensée de ses disciples, à façonner l'esprit de ses disciples. Par exemple, Jésus leur a fait comprendre que dans le royaume de Dieu, on ne raisonne pas comme dans le monde. Il a dit aux disciples, vous voyez, il a pris un enfant un jour, par exemple, il a dit, voyez, si vous ne devenez comme ce petit enfant, il s'adressait à des disciples, hein, il s'adressait à des adultes. Et des gens même qui connaissaient la parole, qui connaissaient Jésus, des gens même avancés. Si vous ne devenez comme ce petit enfant, dit Jésus, et si vous ne convertissez pas, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Alors, il les surprenait parce qu'eux, ils se disaient, mais nous, on sait déjà tellement de choses. Et pourtant, ils avaient besoin de devenir comme un petit enfant. Ailleurs, Jésus dit, celui qui est le, si vous voulez être le plus grand, il faut être le plus petit, le serviteur des autres. Alors que eux, ils voulaient dominer les autres pour être le plus grand. Ça, c'est les pensées de ce monde. Mais Jésus a dit, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, pour être le plus grand, il faut être le plus petit, le serviteur de tous. Façonner la mentalité des disciples, c'était dur, hein, parce qu'on pense à l'envers de ça. Il a expliqué ailleurs, je vous donne un dernier exemple, il dit, celui qui veut sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la sauvera. Donc il enseignait aux disciples de raisonner à l'endroit, si je puis dire. Nous, on raisonne à l'envers par rapport au monde, mais on raisonne à l'endroit par rapport aux lois du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de nos pensées ? Nous revenons à 2 Corinthiens 10. Ce texte nous dit qu'il nous faut tout d'abord les capturer, puisqu'il dit, nous amenons toute pensée captive. Hein, captive, il faut la capturer, il faut l'attraper si vous voulez. Et cette mauvaise pensée, il va falloir la traquer, la débusquer jusqu'à temps qu'on la saisisse. Et puis l'amener, ensuite il faut l'amener à l'obéissance de Christ. Alors d'un côté, Satan, le monde, ils veulent nous inculquer une certaine manière de penser. Mais nous qui sommes chrétiens, nous devons prendre ces pensées, les capturer et les amener et les soumettre à l'obéissance de Christ. Et c'est comme ça qu'on va se maintenir dans la pureté, dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est la pensée donc captive de Corinthiens 10, 4. Et je termine avec une dernière pensée, c'est que nos pensées doivent être régénérées. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. Et Paul dit à un moment donné, nous avons la pensée de Christ. Donc il s'est passé quelque chose dans ses pensées pour qu'il Paul ne pense plus comme le monde qui l'entoure pense, mais il pense comme Christ maintenant pense. Et c'est ça la pensée régénérée. Parce que nous ne devons plus raisonner comme le fait le monde autour de nous, nous devons avoir la pensée de Christ. Paul exprime aussi sa communion totale avec Jésus lorsqu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai la pensée de Christ. Et il ressentait les sentiments de Christ. Alors, comment est-ce qu'on peut entretenir des pensées positives? On voit que là, Paul a la pensée de Christ. Mais la Bible nous dit comment nous devons penser. La Bible nous dit que nous devons orienter nos pensées dans la bonne direction. Parce que naturellement, nos pensées, on a dit tout à l'heure, dans une partie, que nos pensées sont naturellement attirées vers le mal, vers ce qui est terrestre, vers ce qui est mauvais, etc. Mais d'autres versets nous montrent que nous, chrétiens, nous devons maîtriser nos pensées et les orienter vers quoi ? Vers Dieu, vers la bonté de Dieu, vers les cantiques, c'est David qui l'écrit ça, vers les jugements d'autrefois, et puis Paul écrit aux Philippiens, vers quoi nous devons orienter nos pensées ? Philippiens 4, 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En comptant rapidement, ça fait une douzaine de choses vers lesquelles nous devons orienter nos pensées, qui doivent ainsi être transformées. Et ainsi, nous aurons des pensées positives. Alors nous savons, en conclusion, il va y avoir un combat, parce que le diable nous assaille par ses pensées négatives, le monde qui nous entoure a des pensées négatives, en nous-mêmes, il y a des pensées négatives, donc jusqu'à notre dernier souffle, il y aura un combat livré contre des mauvaises pensées. Veillons à ce que nous entretenons, parce qu'une chose est d'avoir une mauvaise pensée, mais on peut la chasser, mais autre chose est d'entretenir une mauvaise pensée. C'est ce que Jésus appelle la convoitise. Quand quelqu'un entretient un méfait dans son cœur, ou qu'il va entretenir dans son esprit, il va imaginer des choses. Donc ça, frères et sœurs, nous devons l'éradiquer de notre esprit, afin de ne pas pécher par nos pensées. Alors nous avons Jésus qui est à notre secours, frères et sœurs, et on peut le prier. On va terminer en priant et demander au Seigneur qu'il nous donne d'avoir un esprit renouvelé, et nous on veut combattre contre toute mauvaise pensée et prier le Seigneur qui nous garde dans sa main. Merci Seigneur encore pour ta parole qui nous enseigne de veiller à toutes ces pensées vaines, toutes ces pensées mauvaises qui traversent parfois notre esprit, et combien nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous nous égarons dans nos pensées, dans nos raisonnements, parce que nous ne les avons pas soumis à ta parole. Et nous te prions, Seigneur, afin que ton peuple ait la pensée de Christ et que nous ayons ce raisonnement régénéré pour avoir des pensées positives, des pensées qui t'honorent, des pensées spirituelles qui sont à la gloire de Dieu. Savons que c'est un piège et que l'ennemi s'en sert pour nous détourner de ta parole, mais nous voulons, Seigneur, saisir toutes les armes, comme nous l'avons lu. Nous voulons mettre en pratique ta parole et combattre dans la foi pour que nos pensées soient gardées pures en toi. Dans le nom de Jésus, je te prie pour mes bien-aimés afin que tu les gardes dans ta paix, et à toi toute la gloire. Amen.